Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue sur Fréquence Mistral pour ce rendez-vous avec toute la semaine et la semaine prochaine des conteurs pour cette 10e rencontre de la parole dans les Alpes d'Haute-Provence qui se déroule à partir de demain du 19 au 26 août 2015. Rythme et couleurs du monde. Et pour cette émission, eh bien, je reçois bien sûr Christiane Belleuil, directrice de la médiathèque départementale. Bonjour Christiane.
Bonjour Odile.
Aussi ravie d'accueillir donc notre premier conteur invité pour cette année, c'est Alain Lamontagne.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue. Et puis ben, on va tout d'abord orienter vers cette 10e rencontre de la parole avec Christiane Belleuil pour savoir, puisque vous êtes à l'initiative de ces rencontres et avec le conseil départemental.
Conseil départemental maintenant, oui effectivement c'est la 10e édition tout de même. C'est une manifestation qui a démarré en 2006, simplement sur une volonté qui était de montrer que les bibliothèques ne sont pas des lieux de poussière et de savoir, mais bien des lieux de vie, de rencontre et de partage. Voilà. Alors comme on le sait ou on ne le sait pas, d'ailleurs, dans les missions obligatoires du département, il y a la lecture publique. Et donc, dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, il y a quand même 83 bibliothèques, il y a 300 personnes qui travaillent dans les bibliothèques. Et l'idée a été de tendre une espèce de toile, un lien, une chaîne d'union, comme vous voulez, autour du conte. Voilà. Et sont nées les rencontres de la parole.
Et qui ont un beau petit succès. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les conteurs vont aussi à la rencontre des gens dans les lieux assez reculés du département.
Tout à fait.
Parce que c'est vraiment dans les petits villages.
Alors, il y a plusieurs choses à dire sur ce que vous dites, Odile. C'est d'abord que, effectivement, pour moi, les conteurs sont des gens qui vont à la rencontre et qui transmettent, hein, et qui sont dans la transmission, dans le partage, ça c'est évident. Et c'est effectivement une manifestation qui est itinérante. Donc on a comme ça 10 intervenants qui tournent sur 13 communes. Alors, chaque commune a un spectacle tout à fait particulier, et une ouverture et une clôture pour ces rencontres de la parole. Alors l'ouverture, elle est le point... On redémarre là où on s'est arrêté l'année d'avant. Hein. Donc avec un petit clin d'œil cette année, puisqu'on ouvre à Barcelonnette, parce que Barcelonnette est fléchée, on va dire, comme vraiment un centre ressources et une annexe à la médiathèque départementale. Donc nous avons l'année dernière clôturé à Digne, à la médiathèque départementale, et donc on ouvre dans une antenne forte donc à Barcelonnette. Là, c'est un spectacle unique pour lequel on a l'honneur et le grand bonheur d'accueillir Alain Lamontagne. Et ensuite, chaque soir, c'est deux soirées, d'un bout à l'autre du département. Des soirées qui ont toutes lieu à 21h, sauf Barcelonnette, parce qu'il fait un petit peu frisqué et que nous avions peur que les pieds de notre podorythmeur s'ankylosent. Donc, on ouvre à 18h30 demain. Et dans ce que je voulais dire, c'est que les communes sont vraiment nos partenaires. Hein, ça, c'est d'une grande, grande évidence. Et que les entrées sont gratuites par volonté départementale, puisqu'on est dans le cadre de la lecture publique, service public, partage, transmission, etc.
Alors, on reviendra sur le déroulement de ces soirées. Et puis, on va faire connaissance donc avec Alain Lamontagne, conteur et podorythmiste, c'est ça? Alors, bien sûr, on a envie de vous demander, de vous poser la question, qu'est-ce que ça veut dire?
La podorythmie, c'est l'art de faire du rythme avec tes jambes assises. C'est la technique de trouver des sons sur une surface avec tes deux pieds. C'est une tradition qui s'est développée, qui a évolué chez nous. C'est pas de la gigue, c'est pas du flamenco, c'est pas de la claquette, c'est vraiment de la percussion que tu t'entraînes à faire ça assis, et c'est une particularité de notre culture. Donc, tout dépendant, je sais pas si vous entendez?
Oui, on entend. Alors, puis, on entend ce monsieur qui trépigne, donc ça fait partie.
Oui, ça fait partie.
De la musique.
Puis la podorythmie, c'est que c'est très curieux. Moi, je fais ça depuis tout temps, depuis longtemps, je fais ça. Depuis très, 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 très longtemps. J'ai une histoire qui explique ça, mais ça serait trop long de vous la raconter. Mais non, tiens, je vais vous la raconter.
Ah.
Je vous la résume. Lorsque j'avais 7 ans, j'ai eu la chance de rencontrer ce qu'on pourrait appeler un genre de lutin, en tout cas un petit être, qui m'a expliqué que si j'étais capable d'apprendre deux savoirs avec mes jambes, j'allais vivre jusqu'à 129 ans. Et à 129 ans, je suis supposé de rencontrer l'éternité qui, elle, va m'amener dans l'espace, dans l'univers, afin de m'apprendre le troisième savoir. Donc, ça, c'est comme ça que j'ai appris. Mais en vieillissant, je me suis rendu compte que je croyais que tout le monde tapait du pied chez nous. C'est pas tout le monde, mais qu'il y avait quand même plusieurs personnes qui tapaient. À 24 ans, je suis devenu professionnel. J'ai commencé à parcourir le monde, à faire des spectacles. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on avait une particularité culturelle. On appelait ça chez nous avant, encore maintenant, du tapage de pied, du cognage de pied, du frappage de pied, des tapeux de pied, des cognes de pied, du tapia, du pas d'accord. Le pas d'accord, ça, c'est une expression de Montréal. Le pas d'accord, souvent, les gens sont pas d'accord que tu tapes du pied au deuxième.
Ah, d'accord.
Au premier. Et puis, bon, il y avait toutes sortes. Et puis, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas une terminologie de cette tradition. C'était quelque chose qui avait passé sous le radar. C'est pas dans le dictionnaire, c'est pas... Et je me suis rendu compte qu'on était unique à faire ça. Et c'est là que j'ai cherché un mot. J'ai cherché un mot, comment on pourrait appeler ça, parce que je voulais que cette forme d'art populaire ait cette terminologie, ait son acceptation, que ça soit dans le dictionnaire, que ça soit pas... Et là, c'est là que j'ai pensé à la racine latine de pied, pédirythmie. Puis là, là-dessus, j'ai une bonne anecdote, parce que j'ai fait énormément de tournées en France, parce que quand même, je fais ce métier-là depuis 39 ans. Et puis, lorsque j'arrivais, puis en entrevue, on me demandait ce que je faisais avec mes pieds, ils me disaient, je fais de la pédirythmie. Et avec l'accent, tout ça, les gens comprenaient pédirythmie. Et ils me répondaient toujours, ah bon? Et puis, lorsque tu voyages, tu finis par comprendre des affaires. Donc, lorsque un Français te dit, ah bon? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche. Quand à chaque fois moi, ça que j'entends « Ah bon », ça veut dire que soit qu'ils ne me comprennent pas ou il y a quelque chose de vicié ou de vicieux ou de quelque chose. Fait que c'est là que j'ai compris que « pédi » amenait à « pédé ». Et donc, c'est là que j'ai passé à la racine grecque, et qui ça s'appelle de la podorythmie. Voilà.
D'accord. Donc maintenant, c'est mieux accepté. On vous dit plus ah bon.
Non, on ne dit plus ah bon. Ben, on me dit ce que c'est. Qu'est-ce que c'est?
Oui.
Ben, c'est pas trop évident. Et puis ça fait un peu pompeux, podorythmie, mais en même temps, je peux pas accepter que cette tradition-là passe sous le radar. J'accepte pas ça. Mm-hmm. Je veux absolument qu'un jour ou l'autre, podorythmie soit dans le Robert.
Et donc, ça existe au Québec depuis très longtemps.
Oui, ça existe. C'est que moi, c'est une hypothèse. Bon.
Mais est-ce que au Québec, on chante en même temps, on joue de la musique en même temps?
Oui, c'est un rythme d'accompagnement. Mm-hmm. En fait, le roi des instruments chez nous, ça a été le violon. Mm-hmm. D'accord. Donc, les gens dansaient énormément. Et il n'y avait pas de système de son. Il installait le violonneux, qu'on appelait, sur une table. Et puis, il jouait pendant des heures et des heures, sinon pendant des jours et des jours. Et lui, il se trouvait, étant donné pourquoi il le mettait sur une table, c'est que nécessairement sur une table, vu qu'il n'y avait pas de système de son, on l'entendait mieux. Et presque tout le monde dans le monde tape au moins du pied lorsqu'ils entendent une rythmique. Mais mettez quelqu'un que pendant 2-3 jours de temps, il joue du violon, finalement, il développe... parce que la podorythmie, c'est, en fin de compte, c'est développer notre côté faible du corps d'une jambe. Et donc, à la longue, il s'est développé ce rythme-là de 2-4. Mais le 2-4 est à la base de pratiquement toutes les musiques. Si on passe à... ou bien Stromac, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on danse... C'est la base de presque... Pensez à différentes chansons. Vous, mm-hmm. êtes une chanteuse. Pensez à une de vos chansons. Certains que je peux vous accompagner.
Alors, je sais pas là, oui, tout de suite.
Je suis sûr que je vais tomber dessus.
Quand je l'ai connue, je l'ai juste aperçue. C'est pas évident.
Mais c'est principalement toujours du 2-4 ou du 4-4. Et voilà.
Donc, la posorythmie, quelque chose de très important pour vous. Et le conte est venu presque en même temps.
C'est différent. Ben, moi, je suis, vous l'avez pas entendu, mais je suis harmoniciste. Et puis, depuis très longtemps, je joue assis. Et lorsque j'ai, à 24 ans, lorsque je suis devenu professionnel, j'avais la podorythmie et l'harmonica. Mais lorsque je terminais mes spectacles, je remarquais que j'avais donné énormément d'énergie aux gens. Mais ça me semblait... je sentais comme un certain vide dans le public. Ils étaient assommés par mon énergie. Mais comment je dirais ça? Donc, il n'y avait pas de signifiance à cette énergie. Et c'est là que les mots ont commencé... à arriver tranquillement. C'est certain que tu dis toujours « bonsoir, cher ami public », mais il manquait quelque chose. Et ce que je suis le plus content d'avoir trouvé dans ma vie, c'est que je me suis rendu compte que finalement, le rythme va au corps. Les mots vont à l'esprit, à l'imaginaire, et la musique va à l'âme. Et c'est cette façon-là que le conte est rentré de plus en plus pour être complet, pour avoir une charge et une décharge. C'est comme, lorsque je parle, j'ai comme une charge de l'univers, et lorsque je tape du pied, j'ai comme une décharge et une recharge de l'univers.
C'est alors, c'est très beau. On a, moi, personnellement, j'aimerais bien entendre, avant d'aller plus loin dans l'histoire, un peu avec l'harmonica.
Avec un peu d'harmonica. Alors, je vais faire un blues rock.
Merci beaucoup. Alain Lamontagne vient de nous faire en direct une démonstration de podorythmie et d'harmonica.
Je tiens à mentionner que la podorythmie, moi, je fais ça naturellement sur une chaise, je l'ai mentionné tantôt. Et puis, j'ai mon plancher que j'amène avec moi, qui est un plancher de bois franc. Et j'aime le son cuir sur bois. Donc, aujourd'hui, on est sur tapis. Et c'est pas tout à fait le même son, mais ça donne un peu une idée.
Ah oui, c'est sûr qu'à vous tout seul, ça met une ambiance du tonnerre. Et c'est, ça inclut, vous incluez donc la musique dans vos contes aussi.
Oui, et pour terminer sur pourquoi je raconte, c'est que jouer de l'harmonica et faire de la podorythmie en même temps, ça demande énormément de souffle. Et c'est intéressant de reprendre son souffle en racontant une histoire aussi. Moi, un côté pratique aussi.
Ouais. J'avais une question à poser à Alain. Vous nous avez dit que c'était cuir sur bois.
Oui.
L'importance du cuir là-dedans et des chaussures.
Ben, ce sont des chaussures qui s'appellent, c'est des dark shoes. C'est des dark shoes, D-A-C. En fait, c'est pas dark, mais DAC, D-A-C-K. Donc, ces chaussures-là sont faites au Canada depuis 1837. Ce sont des chaussures tout cuir. Lorsque, maintenant, un cordonnier voit une paire de chaussures comme ça, il y a des larmes aux yeux. Parce que maintenant, toutes les chaussures sont faites de fusion et de tout ça. Ça serait... Tu sais, le cordonnier, ça n'existe pratiquement plus.
C'est vrai.
Donc, ces chaussures-là ont l'avantage de pouvoir user un contreplaqué et ils sont extrêmement solides et ils sonnent. C'est ça. C'est vraiment, c'est tout cuir, de la semelle de l'intérieur, tout est cuir. Pour vous dire, c'est que j'use 1/12 de contreplaqué de merisier par année seulement qu'à taper avec du cuir. C'est comme le flux puis le reflux de l'océan sur le plancher. Donc, ça prend des très bonnes chaussures, puis c'est des chaussures canadiennes, je suis très content de pouvoir le dire. Ben, c'est ça.
Et moi, pendant que je vous écoute, je suis déjà partie dans le spectacle et j'étais en train de me dire, mais comment je vais faire pour ne... Je pourrais pas le voir demain. Donc, j'étais en train de calculer en même temps. Lundi 24 août à Hanotte, c'est possible encore d'aller vous
écouter. En fait, à Barcelonnette, je vais raconter Le Sabre de Lumière et de Vertu de Sagesse. C'est un conte merveilleux d'origine acadienne, mais sûrement celtique, parce que dans cette histoire-là, il y a des châteaux, il y a des rois, et puis chez nous, on n'a jamais eu ça. Donc, et puis, tandis qu'à Hanotte, ça va être différentes contes. Je pense qu'ici, vous dites conte panaché, hein, quand il y a...
Tout à fait, conte panaché.
C'est ça, il va avoir... Mais c'est toujours entrecoupé de musique, et mes musiques... Je suis compositeur à l'harmonica et interprète. Je vous dirais que je fais du folk contemporain. C'est un peu de traditionnel, un peu de blues, un peu de rock. Folk contemporain, je sais pas si ça donne une connotation aux gens, folk contemporain.
Est-ce que c'est folk contemporain ou faux contemporain?
Folk contemporain. folk.
Juste folk. Une précision par rapport à un accent ravissant.
Ben merci. Et puis, il y a la clôture. Et la clôture, ça, c'est intéressant parce qu'il va avoir tous les compteurs. Et cette semaine, on monte quelque chose. On ne sait pas encore ce que ça va être. Qui va être une création pour la clôture. Je ne peux pas vous en parler plus parce que je ne sais pas. Je vais rencontrer les compteurs à partir de ce soir. Et puis, on monte ça. Moi, je trouve ça excitant. Je trouve ça intéressant parce que tu dois placer tes idées, laisser aller, en donner, laisser entrer des gens dans tes histoires, pas tout prendre la place, laisser de la place à d'autres. C'est intéressant comme démarche.
Oui, c'est, si je peux me permettre, c'est une démarche que nous avons voulu dès le début. Hein. L'idée, c'est aussi que ces invités que nous avons, ces conteurs et ces musiciens, partagent le gîte et le couvert pendant 8 jours, enfin 9 jours en l'occurrence.
Dans un lieu merveilleux.
Dans un lieu absolument...
À la Robine-sur-Galabre, on peut le dire, parce que c'est le château, c'est ça?
C'est au château. Vraiment. Entre parenthèses, le dimanche, c'est une journée libre où nous accueillons tout le public qui souhaite y venir à partir de midi. Que ce soit un public simplement de curieux et d'amateurs, ou bien quelqu'un qui veut partager avec nous contes, musique, etc.
C'est un pique-nique où chacun
chacun apporte son pique-nique et libre à lui de le partager.
Et
ou
partager
pas.
Aussi et en des
revanche,
mots. Des...
La médiathèque vous offre l'apéritif et quelques petites collations annexes. Et ils peuvent également, justement, compter s'ils en ont l'envie. Donc cette année, ça sera coordonné par des conteurs guyanais, David Mérour et Sandra, qui accueilleront et qui feront un petit peu le lien. Alors, je reviendrai peut-être sur Sandra et David, que oui. J'ai rencontrés l'année dernière à Cayenne. Et du coup, on fait un clin d'œil à la Guyane française, donc à la Guyane cette année. Voilà, pour ce petit moment. Je vais insister peut-être sur la clôture dont Alain vient si bien de parler. C'est vrai que je n'ai pas souhaité que ce soit une succession de paroles. Parce que souvent, on a des joutes de paroles, hein, chacun rebondissant sur un mot, etc. Et depuis l'origine, on fait vraiment ce qu'on a appelé une création éphémère, hein, avec une thématique, un scénario, si je puis dire, qui se développe au fil du temps, puisque chaque jour, nos intervenants travaillent ensemble dans une salle absolument extraordinaire où ils peuvent donner libre cours à leur créativité, à leur coup de cœur et coup de gueule aussi, pourquoi pas. Hein. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui ne se reproduira pas, et tous les ans différents, forcément. Parce que...
Ben, impossible qu'on se...
Ah, tout à fait.
Que, tu sais, qu'on se revoie, qu'on soit tous réinvités au même festival, au même endroit. Cette journée-là, ça va être une journée unique.
Oui, et de mémoire de festival, hein, vous ne vous connaissez pas tous lorsque vous arrivez. Je veux dire, très souvent, il y a deux conteurs qui se connaissent et puis qui découvrent les autres.
Ouais.
C'est le plus souvent le cas, d'ailleurs. Hein. Donc, ça fait aussi des rencontres pour les conteurs. Et quelquefois, par la suite, après ce festival, certains ont travaillé ensemble. Donc, c'est amusant parce que je crois que nous faisons vraiment le travail qui est le nôtre, la mission qui est la nôtre, c'est-à-dire une mise en relation dans une chaîne de transmission. Voilà. Notre petit travail quotidien.
Alors, on va revenir à vous, à la montagne. Déjà, c'est un joli nom. Est-ce que c'est un pseudonyme ou c'est votre vrai
nom? Non, c'est pas un pseudonyme. Moi, je suis gascon d'origine. Mm-hmm. Et mon ancêtre s'appelait Renaud Baquet, dit la montagne. Pourquoi dit la montagne? C'est un soldat du régiment de Carignan. Et pour une raison que je ne comprends pas encore, mais on dit peut-être que c'était une bande de huguenots. Et ils ont dû partir de la Bastide de la Montjoie. Et tous les gens qui étaient sur ce bateau-là avaient toutes sortes de noms. Mais lorsqu'ils sont arrivés au Canada, lorsqu'ils sont arrivés au Québec, c'était des La Rivière, c'était des La Forêt, c'était des La Montagne. Et je ne sais pas trop pourquoi, mais ce bateau-là, ont tout changé leur nom. Mais mon ancêtre vient de la Bastide de la Montjoie, dans le Gers, pour placer les gens, là, parce que entre Agen et Toulouse, tout près de la grande ville de Condom. Et donc, la Bastide de la Montjoie est pas loin de là. Et mon ancêtre vient de là. Et puis, c'est ça.
Alors, d'où vous viennent les contes? Parce que les contes, ce sont des choses qu'on vous transmet, que vous transmettez à votre tour. C'est traditionnel québécois.
C'est toutes sortes de choses. Ça peut être des contes traditionnels que j'adapte. Ça peut être je passe sur une certaine idée. Je me dis pas. Je fais des contes philosophiques. Il y a tout le temps un peu de philosophie. Il y a tout le temps un peu de spiritualité. Je fais des adaptations de mythes grecs. J'ai un conte sur Jean Giono, sur un de Beaumune. Et puis, c'est différentes idées, en fait. C'est ce qui me touche dans la vie. Mais naturellement, c'est toujours sur les grands thèmes, l'amour, la mort, la vie.
Est-ce qu'on apprend à conter ou est-ce qu'on a ça dans le sang?
En tout cas, ce que je peux dire, c'est que pour voir ce qui se passe en ce moment un peu partout, autant au Québec, en France, en Belgique, un petit peu partout, les gens croient parce qu'ils ont une langue qu'ils peuvent se mettre à raconter. Il y a une différence entre parler et raconter.
Oui, c'est un art, c'est un art de conter.
Et puis, moi, ce que je suis très content, c'est que c'est vrai que le conte existe depuis pratiquement le début de l'humanité, après qu'ils ont réussi à manger et puis à être sécures et tout ça. Là, ils sont mis à raconter des histoires. Mais de tout temps, si on y pense, si on s'en retourne au village autrefois, c'était pas tout le village qui racontait. Il y avait quelqu'un qui était mieux qu'un autre pour raconter parce qu'il y avait cette particularité-là de pouvoir animer avec sa langue, de pouvoir captiver les gens. Donc, je suis certain que c'est un don. Il y en a d'autres que c'est des laborieux qui vont y arriver. Il y en a d'autres qui comprennent pas du tout. Ils pensent que raconter une histoire, ça devient un conteur. Absolument pas. Moi, je dirais pour ma part, ce que j'ai fait chez moi, parce que je suis considéré comme le père ou le grand-père du renouveau du conte au Québec, c'est qu'effectivement, les gens racontaient dans leur village, ils racontaient. Et à cette époque-là, un conteur de village, si tu le sortais de son village ou si tu le sortais de sa famille, ça ne faisait pas nécessairement un bon conteur parce qu'il était sorti de son milieu. Bon, Moi, ce que je peux dire, ce que je suis content de ce que j'ai fait depuis tout près de 40 ans, c'est d'amener le conte en spectacle. Donc, c'est du conte, mais c'est du conte spectacle. Ce n'est pas parce que... pour moi, un conteur qui bouge, je trouve ça très bien. Parce que c'est de la scène. Ce n'est plus dans une cuisine comme autrefois. Tu es sur une scène, donc tu dois faire un spectacle.
Alors pour en
je
ne
sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais c'est ma pensée sur le conte.
Donc, quand on pense conte, on pense plutôt quelque chose d'intime, de presque de familial ou entre tribus.
Moi, Moi, je suis vraiment un conteur.
Vous avez fait des grandes scènes.
J'ai fait les.
C'est pas un handicap d'avoir des milliers de personnes devant soi.
Ça dépend. Ça, c'est autre chose. Moi, je suis conteur musicien. Il y a des fois que je suis musicien conteur. Si c'est 1000 personnes qui est captif, ça veut dire que ça bouge pas trop là, devant la scène. Je vais raconter, puis je vais faire la musique. Si je suis devant 250 000 personnes, c'est pas arrivé souvent, là, mais quand même à la fête nationale, ça m'est déjà arrivé. Dans ce cas-là, tu dois faire des trucs un petit peu plus courts. Donc, plus l'auditoire est
nombreux,
je dirais auditif, je peux raconter longuement. Mais plus ça bouge, admettons que je me retrouve à avoir un engagement dans une foire, ben là, je me mets pas à raconter des histoires de 20 minutes. Je vais faire un petit conte court et puis après ça, je vais entrecouper ça de musique. Parce que moi, c'est indissociable, musique, histoire et rythme. C'est vraiment indissociable. Et en premier lieu, c'est l'harmonica. Moi, mon père jouait de l'harmonica. Il m'a offert mon premier harmonica à 7 ans. Entre 7 ans puis 13 ans, je l'ai écouté. Entre 7 ans et 13 ans également, pour moi, c'était plus un instrument à bave qu'à vent. Et finalement, j'ai compris que c'était un instrument à vent. Et à partir de 13 ans, j'ai eu beaucoup de peines d'amour. J'avais des peines d'amour. Fait que j'ai été longtemps dans ma chambre à jouer de l'harmonica, à écouter des disques de blues. Et puis, je voulais devenir un bluesman. Moi, je voulais absolument devenir un bluesman. Et puis, je voulais devenir un bluesman. Et donc, j'écoutais du blues sur 33 tours et j'écoutais les très bons joueurs d'harmonica sur 33 tours également, mais traditionnels québécois. Et en fait, mon style de jeu à l'harmonica est la fusion du blues américain avec la technique québécoise-américaine.
Est-ce que je peux poser une question indiscrète et un peu perfide? Imaginons, demain, c'est Barcelonnette, c'est l'ouverture. Vous nous avez dit que c'était un conte long, entrecoupé, ouais, etc. Imaginons que demain... au lieu d'avoir un public panaché, etc., on est tout d'un coup une colonie de vacances, un nombre impressionnant...
De jeunes ?
De jeunes, de moins jeunes, mais un public auquel nous ne nous attendions pas. Quelle est la capacité du conteur à chambouler son spectacle ? Est-ce qu'on va dire « je reste sur ce que j'avais décidé de faire » ou
pas ? Là-dessus, je ne gage pas parce que... je vais peut-être inverser. L'avantage d'être un artiste qui aura 39 ans, 40 ans de carrière dans le corps, quoi qu'il arrive, ça ne me mettra pas à terre. Quoi qu'il arrive,
j'espère bien.
je vais m'adapter, mais je sais quand même que même si je sais à peu près tout ce qui peut m'arriver, qui peut m'arriver quelque chose que je ne pourrais pas contrôler. Je vais essayer de m'adapter. Et c'est ça qui est... Tu sais, vieillir, c'est jamais drôle, mais par contre, avoir de l'expérience, je sais un peu ce qui va se passer, c'est qu'ils vont entendre mon premier morceau, ils vont dire « c'est qui, lui? » Puis ils vont entendre mon deuxième morceau, puis là, ils vont dire « c'est qui, lui, encore? » Puis après ça, je vais commencer mon histoire. Puis au bout d'un heure et quart, d'une heure et demie, ils vont dire « Ah, c'était lui.
» Non, ce qui m'a beaucoup intéressé, moi, à travailler avec les conteurs, avec le conte, c'est cette capacité que vous avez d'abord à être des créateurs d'images, hein, parce que si ça fonctionne aussi, sur tous les... c'est bien ça, c'est que vous êtes créateur d'images. Et j'ai l'impression que vous puisez dans un réservoir, j'allais dire pratiquement inépuisable, mais qui est aussi un réservoir qui contient tous les archétypes, toute l'origine de la vie et du monde, etc. Et que vous sortez, comme un magicien sort de son chapeau, vos histoires que vous adaptez à votre sauce. Les conteurs sont toujours de très grands humanistes, je crois. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a beaucoup touchée et qui a fait que depuis combien, 40 ans maintenant, je travaille autour du conte. J'ai une profonde admiration pour les conteurs. Et chaque fois, alors c'est un peu atypique, hein, lorsque je contacte les conteurs pour ces rencontres de la parole, je dis toujours, on n'achète pas un spectacle. On sollicite la participation de tel conteur.
Oh, merci.
Voilà, c'est juste une précision, mais qui me paraît aussi intéressante parce que, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux personnes qui beaucoup viennent du théâtre aussi et qui s'inventent conteurs, et ça ne marche pas, et ils se demandent pourquoi aussi. Et puis tous ces stages autour du conte, ben, ce n'est pas fait pour mettre des conteurs sur la scène quand même tous les jours. Hein.
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai écrit une méthode qui s'appelle l'harmonica sans professeur. Et puis, je sais pas le nombre de téléphones que j'ai pour me dire, oui, bonjour, vous avez écrit l'harmonica sans professeur. Oui. Est-ce que vous pourriez me donner un cours? Mais là, je dis, écoutez, vous avez acheté mon livre, ça s'appelle l'harmonica sans professeur. Oui, mais j'y arrive pas. Ben, vous y arrivez pas parce que c'est l'harmonica sans professeur. Il faut s'entraîner, il faut pratiquer, il faut... voilà, tu peux suivre des stages, puis la personne t'explique, mais ça veut pas dire que tu vas sortir de là puis que tu vas savoir raconter ou jouer de l'harmonica.
Tout à fait. Ouais. On a droit encore un petit morceau d'harmonica.
Ouais. Et mélanger avec un conte ou pas?
Ben, le début, ce que je vais vous raconter, le sabre de lumière et de vertu de sagesse, c'est l'histoire d'un roi qui s'appelait Adélor. Il ne faut pas confondre avec une autre histoire du roi qui s'appelait Adélor, qui lui mangeait du gros lard. Et il ne faut pas confondre avec l'histoire du roi Dagobert qui...
mangeait sa culotte à l'envers.
Il mangeait du camembert. Donc, c'est le début de cette histoire. Et avant cette histoire, il y a cette musique.
Alain La Montagne, merci.
Est-ce
qu'on peut avoir un petit bout de conte ou pas du tout alors?
Ah, mais vous l'avez eu là?
On l'a eu, d'accord. On a eu le
parce
début.
Parce que souvent, moi je trouve que le conte, c'est, ben, je vous l'ai raconté au début là. Mm-hmm. Mais le conte, pour moi, c'est vraiment le vidéoclip de l'esprit. C'est entre la littérature et le cinéma. C'est ce que et ce qu'il y a de fantastique, c'est que tu racontes une histoire et dans la tête des gens, après ça. eh bien, si tu demandes, eh bien, il va y avoir différentes images. Et c'est ça qui est fantastique, c'est d'arriver, on arrive dans l'esprit des gens et ils font leurs propres images. Mais c'est quand même le langage qui amène à ça. Et c'est ça qui fait une grande différence entre quelqu'un qui sait parler et quelqu'un qui sait raconter. Pour moi, humblement.
39 ans de carrière, Alain Lamontagne, jamais lassé.
Oh non. Puis j'espère que j'en ai encore pour longtemps.
Ça demande d'avoir un peu une âme d'enfant.
Pour moi, en fait, un bon conteur également, c'est quelqu'un qui est capable de raconter une histoire, puis que l'enfant qui est là et l'adulte vont écouter en même temps, ils vont faire le voyage en même temps. Parce que, de toute façon, je mentionnais tantôt, je parle de la vie, je parle de la mort, je parle des rencontres entre les gens. Et donc, la vie et la mort pour un enfant de 7 ans n'ont pas la même signification pour un 14 ou un 21 ou un 40. Mais ce qui est d'important, c'est que le conteur réussisse à amener toute la famille. Et l'enfant va venir chercher ce qu'il a. Il va trouver ça drôle, alors que peut-être que son père ou sa mère va trouver ça touchant et triste. Et voilà, c'est tout. Mais l'important, c'est qu'ils soient ensemble. C'est un conte est supposé. C'est pas uniquement enfant, c'est pas uniquement adulte. Bon, il y a certains contes, 3X, qu'on peut dire, on peut enlever les enfants, mais en tout cas.
Il y a des contes pour les petites oreilles et pour les grandes oreilles, quand même.
Et j'ai envie de vous demander, comment vous êtes à la fin d'un spectacle? Est-ce que vous êtes épuisé comme après un combat?
Oui, parce que j'aime ça, par le fait de mon art, j'aime ça me donner physiquement. Je suis sur scène pour qu'il se passe quelque chose, pour que les gens vivent quelque chose. J'espère qu'ils vont apprécier ça. Mais je me donne énormément.
On voit ça.
Mais ça fait. Je sors d'un spectacle comme un marathonien sort de sa course, satisfait de qu'est-ce qu'il a fait. Je suis là pour donner. Je suis là pour les gens. Je suis pas là pour. Tu sais, les gens ils parlent de star. Cet artiste-là, c'est une star. Moi, ma perception d'une star, c'est comme artiste, tu dois être comme une étoile qui brille. Mais moi, je me sens comme une étoile qui brille, mais je fais partie du firmament. Je ne veux pas être l'étoile. Je ne veux pas être le soleil. Je veux être une étoile dans l'univers qui brille pour les gens et qui leur apporte quelque chose. Mais je fais partie du firmament. Je suis pas tout seul. Heureusement.
Oui, heureusement.
Eh bien, on va continuer encore à vous poser des questions, bien sûr, parce qu'on ne sait pas tout encore, en attendant de vous voir sur scène à Barcelonnette, puis à Nantes. Est-ce que vous avez besoin d'un costume? Vous créez différents personnages?
Non, je dois vous dire, j'ai mes souliers qui sont... mes souliers et et surtout mes lacets me hantent tout le temps, parce que il faut pas que mes lacets se délassent lorsque je tape du pied. Je suis assez coquet, donc je pense toujours à mes bas, parce que je suis sur scène, donc j'ai toujours des beaux bas. Vous dites pas des bas, vous dites
des chaussettes.
Des chaussettes, c'est ça.
Et c'est plus féminin en général.
Ouais, c'est ça. Donc j'ai toujours des chaussettes assez jolies. Et puis parce que les gens regardent mes pieds. Sinon mon costume. Il y a eu des époques, j'ai eu des costumes. D'autres fois, je suis bien habillé pour l'occasion, mais j'ai pas de costume comme à l'opéra, là, non. Mais mon plancher est très important, ma chaise est très importante, à une certaine hauteur. C'est une chaise standard en bois, bois sur bois, ça donne un meilleur son. D'ailleurs, il faut nous trouver ça. Et puis...
Donc vous vous déplacez pas.
La fiche technique.
Vous vous déplacez pas avec votre plancher partout où vous allez.
Oui, je me déplace avec mon plancher.
Et alors il fait combien de
Il fait ça fait combien?
Un format raisin en mètre, fait, un format, une belle feuille de papier, très grand format.
Ouais. Il fait table un peu.
Cela dit, c'est le seul conteur qui vient avec son plancher.
Ça fait toujours des histoires parce que lorsque je viens sur l'Europe et puis qu'il y a un vol de tableaux, dans un des musées en Europe, eh bien là, ils se posent des questions parce qu'ils voient quelqu'un qui se promène le tableau et dit « Tu viens avec ton plancher », ils ne comprennent pas. ils sont convaincus que le tableau est caché dans le plancher en question. Et je viens avec le plancher. Avant, je voyageais avec le plancher. Ben, chez moi, je voyage avec mon plancher et ma chaise au Québec. Mais maintenant, avec les transports, c'est tellement dispendieux, tout ce qui est poids supplémentaire. Donc, je vais me trouver prochainement, là, c'est ma mission, je vais me trouver une chaise pour les Alpes.
Une chaise pour les Alpes.
Quand on vous voit et quand on connaît votre histoire, podorythmiste, ouais. et l'importance de vos souliers, on pense forcément à Félix Leclerc. Ouais. Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Alors, ouais. Est-ce que lui aussi était
podorythmiste? Non, il n'était pas podorythmiste. Non, c'était un grand auteur-compositeur. Ouais, ouais. Je suis content d'avoir rencontré et joué avec Félix Leclerc. Et... c'est certain que pour nous, c'est un grand maître, mm-hmm. c'est un grand artiste, il fait partie, c'est une grande figure de notre culture.
Mm-hmm. En tout cas, voilà, maintenant quand j'entendrai parler de moi, mes souliers, moi je penserai à vos souliers, à vous, Alain Lamontagne, et à vos contes, et à cette façon assez surprenante, quand vous êtes arrivé dans le studio tout à l'heure, j'avoue, je ne vous connaissais pas du tout, et je vous vois vous asseoir et tout d'un coup taper des pieds comme... J'ai dit, qu'est-ce qui se passe?
Elle s'est dit, un malade,
un grand nerveux,
stressé de la vie.
Et puis, finalement, qu'est-ce qui va se passer au festival comme autre conteur?
Ah ah, qu'est-ce qui va se passer comme autre
conteur? On peut peut-être annoncer le programme.
Rappeler peut-être que tous les jours, il y aura une émission de partage comme ça avec l'un des invités des rencontres.
Hein. Voilà, avec demain une exception, ce sera...
demain une exception.
Il y aura le matin à 9h30.
À 9h30.
À 9h30.
Matin, les musiciens.
9h15, pardon, 9h15.
Enfin, aux environs de...
Voilà, à 9h15, voilà.
On négocie 8h ou 10h.
8h, un peu trop tôt.
Non, 9h15. 9h15,
d'accord. 9h15, dernier.
Tapante.
Donc, pour ces 10e rencontres, on avait fait le choix d'avoir avec nous deux musiciens qui accompagneront, ou qui feront quelque chose en amont, sur chaque lieu. Donc, Rénal Fleury, que vous avez rencontré l'année dernière, si vous avez suivi.
Oui, contrebassiste.
Il accompagnait Didier Wetterwald en oui. tant que contrebassiste. Hein. Il ne sera pas avec sa contrebasse. Voilà.
Ah bon ?
Parce que la contrebasse est trop... Donc, il aura d'autres instruments.
Parce qu'il est quand même multi-instrumentiste
il
aussi.
Il est multi-instrumentiste. Mmh. Et puis, c'est vrai que l'Ogéogite, il avait une chambre où il y avait deux lits. Il se mettait lui dans un lit, sa contrebasse dans l'autre. Donc, bon. Non, Rénal Fleury sera là. Et Nasser Soltani qui est percussionniste et qui est un multi-percussionniste de grand talent. Hein.
Donc, ils seront là demain matin, en tout cas, à Fréquence Mistral, de 9h15 à 10h et à 17h. On recevra
jeudi ici à Fréquence Mistral, ce sera Patrick Ewen. Mm-hmm. Alors Patrick Ewen, c'est un extraordinaire barde, c'est un celte avec une truculence, une beauté du geste. Enfin, c'est vrai que c'est un grand bonhomme. Et Patrick Ewen sera à Prats le 21 août et à Limans le 25. Alors comme nous sommes à Fréquence Mistral, on continue sur Fréquence Mistral. Vendredi, ce sera Alima Hamdan. Alors Alima, elle nous vient du Maroc et elle a une facilité déconcertante à jouer avec les mots et notamment à intégrer dans des contes qu'elle dit en français des mots qui viennent de par chez elle. On est encore là dans quelque chose qui fait notre spécificité aussi, hein. Enfin notre, non pas la mienne, des conteurs, c'est de pouvoir panacher les cultures et ouvrir les cultures les unes aux autres et travailler sur la différence aussi. Hein. Ensuite, donc samedi dimanche, Fréquence Mistral est silencieuse, donc il n'y aura.
Et voilà, mais en tout cas, je viendrai avec plaisir prendre peut-être un peu du son ou
Odile sera invitée de la scène du Jardin des Mots, puisque Jardin des Mots, on continue à jouer avec les mots, et que l'année dernière, la prestation d'Odile avait été magnifique sur ce jardin des mots.
Oh, monsieur
gentil. C'était bien amusé, on s'était bien amusé.
Oh, Dieu.
Donc, une autre.
Mais j'espère bien tenter avec mes chansons de voir ce que vous pourriez faire.
Si vous voulez un accompagnement de Podurythmie, il n'y a pas de problème.
Ouais.
Ah bon, on va bien s'amuser. Essayer. Vous venez très nombreux dimanche à la Robine sur Galabre.
Ça va être beau. Ouais.
À partir de midi. Lundi 24 août, Marc Buléon. Alors Marc Buléon, c'est aussi un grand... un glouton des mots, comment pourrait-on dire ça? C'est quelqu'un qui raconte avec truculence et bonheur. Hein. Alors il vient pas de très très loin, il est complètement... on dirait que le temps n'existe pas, je dirais. Ça peut être ici ou ailleurs, aujourd'hui ou demain, voilà. Et mardi 25 août, c'est Claude Delsol qui sera ici. Alors j'ai oublié de dire que Marc Buléon était à Venterolles le jeudi et à Torrambas le samedi. Claude Delsol, c'est un espèce de magicien. Il est dans ce que... Alors moi je dis, j'aime bien panacher le conte avec... Il y a deux ans, c'était la danse avec notre indienne. Cette année, c'est avec magie. Claude Delsol est un magicien et en plus c'est un magicien des mots. Donc lui il sera à Allemagne en Provence vendredi 21, donc ce vendredi-là, et au Castellet lundi 24. Voilà, et pour le dernier jour, c'est-à-dire mercredi 26 août, vous ferez connaissance un petit peu plus avec les Guyanais, donc avec David Mérour et Sandra Angulo, donc rencontrés en Guyane, découverte d'un conte qui est très panaché, hein, puisque vous savez qu'en Guyane, il y a un certain nombre d'ethnies qui se côtoient et qui partagent. Et je dirais juste qu'ils font un travail remarquable sur la collecte. Et l'invitation que j'avais, moi, en Guyane l'année dernière, c'était aussi de participer à un séminaire dont le thème était la transmission orale. Hein, et puis, avec des invités assez particuliers, comme Suzy qui nous a... parler de la culture dans les sociétés de tradition uniquement orale. Donc voilà, ce sont des personnes très très riches qui font vraiment un travail remarquable pour que le conte ne disparaisse pas. Voilà, donc en traversant les rencontres à Fréquence Mistral, je crois que je vous ai parlé de tout le monde. A priori, je n'ai oublié personne. Ah si, Monsieur Lamontagne. Mais Monsieur Lamontagne, oui.
Qui est ici aujourd'hui, pour notre plus grand bonheur.
Voilà.
Donc, c'est demain à Barcelonnette.
Demain à Barcelonnette.
Devant la médiathèque,
alors, attention,
c'est ça?
C'est devant la médiathèque, ouais. Oui, tout à fait.
À 18h.
Et c'est à 18h. N'oubliez pas, si vous venez, d'apporter une petite laine.
Merci. Bonsoir à tous. Au revoir.
Bonsoir, Odile.
À demain.
À demain.